Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκές ξεζωβάνες.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, bonsoir. Carrefour de l'Europe, deuxième partie, le débat. En Autriche, une semaine après les élections, officiellement, c'est la coalition gauche-droite, autrement dit les sociaux-démocrates alliés aux conservateurs, qui ont remporté le scrutin en obtenant une petite majorité. Mais à Vienne, au lendemain des législatives, le vrai vainqueur, c'est l'extrême droite, car les partis populistes de droite totalisent 30% des suffrages, un record en Europe. Pourtant, l'Autriche va plutôt bien, les Autrichiens sont riches, ils ne connaissent pas le chômage, et les montagnes alpines ne sont jamais loin pour qui a envie de skier ou de s'aérer. L'Autriche, sous la pression de l'extrême droite, je vous présente nos invités. Dany Leder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien autrichien Courir. Courir, ça veut dire courrier ?
Non, c'est un faux ami, comment on dirait en français, c'est-à-dire qu'en allemand, courir veut dire messager.
On est presque dans la même ambiance néanmoins. Parce qu'un messager, souvent, ça apporte le courrier, ça peut en tout cas.
Exactement, oui, ça se rejoint.
Christian Philips, bonjour, guten Tag.
Bonjour, guten Tag.
Vous êtes journaliste à la radio autrichienne ORF et également le correspondant de RFI à Vienne. Merci d'être en ligne de la capitale autrichienne. Jérôme Segal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un Français établi en Autriche de longue date, vous êtes enseignant à l'université de Vienne et vous animez un blog qui relate l'actualité autrichienne au jour le jour. Son nom, Le Petit Flambeau, c'est mystérieux.
Bah, Le Petit Flambeau, en fait, c'est une allusion, pour ceux qui connaissent, à Karl Kraus, un très célèbre écrivain autrichien qui a publié pendant des années un journal qui s'appelait Die Fackel, et en français, on peut traduire ça par la torche ou le flambeau.
Voilà, nous voilà renseignés. Merci également d'être en ligne de Vienne. Alors, Dany Leder, les sociaux-démocrates du chancelier Werner Faymann sont arrivés en tête, mais on ne peut pas clairement parler de victoire, même si avec leurs alliés conservateurs de l'OVP, ils obtiennent un tout petit peu plus de 50% des suffrages.
Ils se sont effectivement affaiblis vis-à-vis des résultats historiques, mais il ne faut pas néanmoins être omnibilé par ce que vous appelez l'extrême droite, parce que déjà le pourcentage que vous avancez de 30% est inexact. L'extrême droite ou la droite radicale incarnée par le Parti de la Liberté, l'équivalent du Front National, à lui seul n'atteint même pas 21%, et ils étaient déjà plus hauts, hein, ils étaient à 27%.
Alors, Christian Philips, en Autriche, quand on parle d'extrême droite, il faut être conscient qu'elle est multiple. Alors, peut-être que Dany Leder n'est pas d'accord, mais moi, j'ai compté trois partis d'extrême droite. Alors, Dany Leder n'est pas d'accord, il va nous le dire. Non. Ou des partis populistes.
Populiste, c'est un peu un terme cache-tout. Hein. Je veux dire, vous comptabilisez là-dedans un parti qui vraiment, à mon avis, est aujourd'hui un parti qui est devenu un parti libéral, qui n'est pas entré au Parlement, qui a un petit peu plus de 3%. Et puis surtout, vous comptez là-dedans le parti, qui est un parti créé par un milliardaire austro-canadien, qui a un personnage à haut en couleur, mais qui est sûrement pas d'extrême droite. Il faut se garder d'avancer des chiffres qui peuvent impressionner un public français. On n'est pas dans un contexte de montée de l'extrême droite équivalente à ce que peut espérer Marine Le Pen ou veut espérer Marine Le Pen ici.
Alors Christian Philips, est-ce que vous partagez l'analyse de Dany Leder ? Moi j'avais un peu, peut-être à tort, en additionnant les scores de ces trois partis. Alors il y a le FPÖ de Hans Christian Strache, le BZÖ qui était fondé par des dissidents de Jörg Haider, et ce fameux parti Stronach dont Christian Philips, vous allez nous dire un petit mot. Alors est-ce que je suis allé un peu vite en besogne ? Est-ce que les partis populistes font ou non, totalisent ou non 30% des suffrages des électeurs autrichiens ?
Alors, il y a toujours ce problème avec le terme de populiste, c'est-à-dire ça cache souvent justement l'extrême droite, et je pense que ça s'applique très bien au parti de M. Strache, puisqu'il a des thèmes qui sont une xénophobie assez virulente, il est anti-européen, donc ça correspond à peu près à ce qu'est le FN. Alors, ces dernières années, on a l'habitude d'appeler ça du populisme, pour moi c'est de l'extrême droite. Alors, le BZÖ, vous venez de le dire, c'était des dissidents du FPE, et c'est Haider qui était en perte de vitesse dans son propre parti qui a créé cette formation. Cette formation atteint plus de 3,5%. Avec les 21,5% de Strache, ils arrivent à 24-25%. Et c'est vrai que Stronach, c'est autre chose.
Alors Stronach, il faut expliquer un mot. Le parti Stronach, c'est comme si on avait le parti des Esquelles. C'est le parti d'un nom de quelqu'un, d'un milliardaire, comme l'évoquait Dany Leder, qui arrive des États-Unis, je crois, ou du Canada, avec beaucoup d'argent et il monte sur son propre parti et il explique un peu avec des mots simples comment il voit l'Autriche. Il a envie de gérer un pays comme il a géré son entreprise. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. C'est un homme de 81 ans, il ne faut pas l'oublier. Il a déjà essayé de se lancer dans la politique au Canada, puisqu'il a les deux nationalités. Et là, donc apparemment, pour s'amuser dans son grand âge, il a fait plusieurs tentatives en Autriche. Il a acheté un club de foot qui n'a pas marché. Il voulait le faire entrer dans la Ligue des Champions, ça n'a pas marché. Et là, maintenant, bon, il se lance en politique. Il achète la politique. Il a acheté des députés de 3e ou 4e rang et pour former ce groupe parlementaire. Et donc, ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive quand même à près de 6%. Il était déjà crédité de plus de 10% dans des sondages, mais quand on l'a vu à la télé pendant les débats, c'était absolument surréaliste. Il était parfois incapable de sortir une phrase compréhensible et en fait, il n'a pas vraiment de programme non plus. Par rapport aux autres candidats du BZE, du FPE, par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas de slogan antisémite ou xénophobe.
Alors c'est quand même assez intéressant, Christian Philippe, qu'il ait réussi à convaincre 6% des électeurs autrichiens.
On analyse ça, on dit que c'est un vote de mécontents qui peut-être ne seraient pas allés voter dimanche. Et donc voilà, ils ont quelqu'un où ils expriment leur mécontentement.
Jérôme Segal, votre regard de Français, mais très impliqué dans la vie autrichienne, sur ce qui s'est passé, comment vous analysez-vous ces élections ?
En fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Daniel Eder, et je voudrais apporter une précision, c'est que ce qu'on appelle la Team Stronach, donc le parti de ce milliardaire, il s'est constitué à l'automne 2012, il a créé un groupe parlementaire, et pour ça, il a pris un député du SPE, deux qui étaient des anciens du BZE, donc du parti de Haïda, et trois autres qui avaient encore leur carte au parti de Haïda. Donc sur les 6 députés qu'il avait, il y en avait 5 qui venaient directement de l'extrême droite du BZE. Donc pour moi, c'est clairement un parti issu de l'extrême droite. Et lors de ses allocutions télévisées, je rappellerai qu'il s'est prononcé pour la peine de mort, pour les profits qu'il a, pour les tueurs professionnels. Et pour moi, c'est quelqu'un qui peut être dangereux, qui par exemple contrôle complètement les médias de façon un peu tyrannique. Et je pense que ce n'est pas exagéré si on dit qu'aujourd'hui, il y a 30% de gens en Autriche qui ont voté pour l'extrême droite.
Je ne vous suis pas. Alors, comment ils contrôlent les médias autrichiens, Stronach ?
Non, ils contrôlent les médias lors des entretiens qu'il accorde. Il y a eu plusieurs histoires avec des journaux comme le Standard ou Die Presse, où il a demandé à avoir un droit de regard complet.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent les médias. Vous comprenez qu'ici, à l'étranger, on entend le contrôle des médias, on s'imagine que c'est un mania de la presse, mais il n'en est pas.
Non, il n'est pas mania de la presse.
Ouais,
il contrôle de façon frénétique tout ce qui est dit sur lui.
Bah oui.
Et il gère son parti vraiment comme une entreprise. Là, il a viré tous ceux qui n'avaient pas
obtenu. Oui, mais ce n'est pas l'extrême droite.
Alors, bon, on ne va pas faire le débat si Stronach est dans l'extrême droite ou pas. On comprend qu'il y a des avis différents. On comprend aussi que les Autrichiens ont voté à 50% pour ces partis traditionnels.
Il y a une erreur. Il y a 50%, vous avez raison, pour les partis qui ont gouverné, plus un parti qui est absolument pro-européen et absolument anti-nazi, anti-fasciste, c'est-à-dire les Verts. Ajoute tout ça, et en plus les néos qui sont un parti, disons, libéral de droite, on arrive à une très très large majorité de partis pro-européens, pro-démocratiques et pro-républicains. Il faut pas oublier ça pour ne pas créer un climat catastrophiste.
Alors aujourd'hui, les élections sont passées, on a analysé les résultats. Qui peut gouverner l'Autriche aujourd'hui, Daniel Eder ? Est-ce que la reconduction de cette coalition gauche-droite, en France on dirait UMP-PS, en Allemagne on dirait SPD-CDU, est-ce que c'est l'hypothèse la plus probable ?
C'est une hypothèse très probable, je ne m'avancerai pas plus sur ce sujet parce qu'il y a d'autres variantes qui sont possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est une coalition qui exprime l'ennui pour la plupart des Autrichiens. Ce qui veut pas dire que...
L'ennui, ça veut dire.
Oui, ça veut dire que c'est des responsables qui, à la petite semaine, qui continuent leur boulot, qui le font bien d'une certaine manière, mais qui manquent un peu de perspective, d'entrain, d'élan.
Et puis, c'est pas excitant.
Non, et puis il y a un autre aspect plus fondamental qu'il faut comprendre et qui alourdit leur démarche, c'est que ces deux partis qui représentent effectivement des intérêts jusqu'à un certain degré contradictoires. Le ÖVP est un parti conservateur qui tente à libéraliser l'économie autrichienne, à baisser les filets sociaux, et le Parti Socialiste, qui est lié à la grande centrale syndicale unique, cherche à préserver ce filet social au maximum. Et donc là, des gens d'un côté comme de l'autre, qui souhaitent aller plus loin, que ce soit dans les filets sociaux ou de l'autre côté dans la déréglementation pour dynamiser le pays ou le dynamiser encore plus, ne trouvent pas leur compte. C'est ça la faiblesse de ce type de gouvernement.
Un manque de charisme, vous diriez aussi, des leaders?
Oui, absolument. C'est un point très important que vous venez de pointer, c'est que l'Autriche n'a pas un personnage comme Angela Merkel. Le chancelier social-démocrate, M. Faymann, est un personnage assez terne. Son vis-à-vis conservateur, encore plus. Hein. Je veux dire, c'est effectivement des hommes politiques très moyens, ce qui fait leur force et leur faiblesse, bien entendu. Et face à cela, peut émerger un milliardaire haut en couleur, un démagogue populiste. Bon, l'Autriche n'a pas trouvé un personnage intégrateur à la Obama, par exemple.
Alors, Christian Philips, on vient d'entendre Danny Leder. Il a évoqué que la reconduction de la grande coalition, on va l'appeler comme ça, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire dans un terme français, c'est une possibilité. L'autre possibilité, et ça a déjà existé, c'était un gouvernement entre l'extrême droite du FPE et la droite classique. Ça a eu lieu il y a 13 ans. À l'époque, ça avait provoqué notamment une mise à l'écart de l'Autriche par les pays européens. Ça avait duré un certain temps, mais pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est une hypothèse de coalition envisageable aujourd'hui dans l'Autriche au lendemain de ces élections ?
Eh bien, sur le plan théorique, il y a beaucoup de choses qui rappellent cette année 1999 où la situation était assez comparable puisqu'il y avait une grande coalition à laquelle on reprochait un immobilisme, etc. Et le pays allait très bien, il ne faut pas l'oublier finalement, comparé à d'autres pays européens, l'Autriche va très bien sur le plan économique, même si tout n'est pas au mieux, mais quand même. Et maintenant, au début des négociations, l'ÖVP, le partenaire conservateur, se fait prier, c'est-à-dire, il dit, nous avons toujours cette autre option de nous mettre ensemble avec l'extrême droite. Ce qu'il oublie, c'est que contrairement à 1999, il n'y a pas de majorité sur le plan arithmétique entre ces deux partis. Donc, il faudrait un troisième partenaire qui pourrait être l'équipe Stronach. Mais Stronach, c'est quelqu'un qui est absolument imprévisible. Déjà actuellement, ça remue dans les brancards. Il y a des personnes qui, soi-disant, étaient au premier plan qui sont virées, sans explication. Il y a, d'autre part, des lobbies importants au sein du parti conservateur, notamment l'association des industriels, qui sans doute, contrairement à ce qui s'est passé avant, ne tolérerait sans doute pas cette alliance. Et puis, il ne faut pas oublier ce que disait Dani, c'est que M. Spindelegger n'est pas Wolfgang Schüssel. Wolfgang Schüssel, c'était quelqu'un, l'ancien chef du Parti conservateur, qui voulait le pouvoir, qui a négocié en apparence avec les socialistes et qui ensuite, parallèlement, avait négocié avec l'extrême droite de Haider pour arriver au pouvoir. C'était coûte que coûte pour arriver au pouvoir. À l'époque, il avait dit avant les élections que s'il était battu par l'extrême droite, il irait dans l'opposition et bien qu'il était arrivé derrière l'extrême droite, il est devenu chancelier par la suite, on connaît l'histoire. Donc aujourd'hui, je pense que la donne est différente et cela dit, toujours avoir des surprises.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, l'Autriche sous la pression de l'extrême droite ou non, nous sommes avec Danny Leder, le correspondant à Paris du quotidien Courir, avec Christian Philips, journaliste à la radio autrichienne ORF et également le correspondant de RFI à Vienne, et avec Jérôme Segal, un Français établi de longue date en Autriche, qui anime un blog qui s'appelle Le Petit Flambeau, qui est par ailleurs universitaire, enseignant à l'université de Vienne. Alors, l'Autriche, je le disais en introduction, c'est un pays riche, c'est même le deuxième pays le plus riche après le Luxembourg en ce qui concerne le revenu par habitant. C'est un pays très beau, les montagnes sont belles, on a l'impression que on a cette formule en France, heureux comme Dieu en France, mais on pourrait dire la même chose, heureux comme Dieu en Autriche, Danny Leder. Alors qu'est-ce qui fait que finalement on a l'impression qu'à l'issue de ce vote, les Autrichiens sont un peu perdus, ils ne savent pas à quel sein se vouer, ils ne savent pas trop, semble-t-il, comment se définir dans l'Europe et dans le monde aujourd'hui.
Oui, j'aimerais revenir sur la question principale, je pense, pour cette émission, puisque elle porte ce nom,
Carrefour
de l'Europe. Il faut voir qu'il y a une sorte de paradoxe autrichien, une contradiction qui traverse la population, y compris les individus, c'est que l'Autriche est un grand gagnant à la fois de l'Union européenne et de l'euro. Hein, et on peut pas imaginer le succès économique splendide de l'économie autrichienne, de son économie exportatrice, de ses banques, sans l'ouverture à l'Est, sans la stabilité qu'a apporté l'euro. L'Autriche, peu de gens le savent, est aujourd'hui, dans un tas de pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, le principal investisseur, encore avant l'Allemagne. Et donc, l'Autriche est éminemment intéressée à ce que ce système continue, à ce que l'Europe se stabilise, se perpétue. Et donc, il y a là matière à en être satisfait. En même temps, cette évolution ne s'est pas passée sans heurts. C'est-à-dire que il y a eu néanmoins des efforts qui ont été fournis au niveau de la compétitivité au détriment d'une forme de stabilité sociale. On a à peu près, parmi les gens qui ont un métier en Autriche, 40% qui sont dans des emplois atypiques. Bon, personne, ces gens...
C'est-à-dire mini-job, mini-salaire, voilà. Précarité.
Alors, les filets sociaux sont très importants en Autriche. L'État-providence continue à très très bien fonctionner en Autriche. C'est d'ailleurs la base du succès autrichien. Mais en même temps, c'est néanmoins une forme de déstabilisation et les gens se retrouvent dans des craintes. Et là, dans cette ambiance-là, une partie des salariés, une partie de la population se sent déstabilisée. Et donc, le moindre effort, que ça soit pour des réfugiés, que ça soit pour des immigrés, que ça soit pour ce qui est ressenti comme un effort pour les autres, c'est-à-dire le soutien à la Grèce, des choses comme ça sont perçues comme une injustice. Et là, il y a un élément très important qu'il faut souligner. L'Autriche a quelque chose de particulier. On a malheureusement en Autriche un journal populiste, mais alors qui mérite d'une certaine manière l'étiquette d'extrême droite, qui s'appelle Krone Zeitung, et qui tire à plus d'un million d'exemplaires, qui est lu
ce qui est beaucoup pour un pays.
Alors c'est en pourcentage.
De 8 millions et demi d'habitants.
Oui, voilà, c'est en pourcentage, pas seulement beaucoup, comme vous le dites, c'est un euphémisme, c'est le journal en pourcentage par rapport à la population le plus costaud du monde. Et donc ce journal est sur la ligne du FPE d'extrême droite. Et pour vous donner un exemple, on a eu en Autriche des inondations importantes, avec tout ce que ça implique de souffrance. Et immédiatement, l'un des principaux éditorialistes de ce journal a dit, là on voit bien, il faudrait utiliser notre argent pour nos gens. Peut-être qu'en France, ça provoque un écho, puisque c'est un slogan qui est aussi utilisé par Marine Le Pen ici. C'est aussi le slogan de Strache en Autriche. Ce qui veut dire quoi? C'est que le moindre souci, la moindre mesure de réforme administrative, on ferme une crèche, on centralise une administration, est vécue par une partie de la population comme une injustice et mis en regard avec ce qu'on peut faire pour soutenir, par exemple, la Grèce, pour accueillir des immigrés. Et c'est sur cette dynamique-là que nous avons un problème d'extrême droite, mais qui reste, à mon avis, aujourd'hui, contenu. Il faut aussi le souligner.
Alors, Jérôme Scal, j'ai envie d'entendre votre réaction à tout ce que vient d'expliquer Dany Leder. Vous, qui êtes un Français établi de longue date en Autriche, comment ressentez-vous tout ce qui a été dit? Est-ce que, finalement, le problème des Autrichiens, c'est qu'ils sont trop riches?
En fait, je vois pas les choses de façon si positive, même d'un point de vue économique. Si on s'intéresse à l'aspect humain, la bonne santé économique de l'Autriche repose en partie, je dis bien en partie, sur l'exploitation de nombreux travailleurs des pays limitrophes. Si on regarde par exemple qui s'occupe des personnes âgées, qui sont très importantes en Autriche, on trouvera que des femmes slovaques, des femmes polonaises, parfois même des femmes ukrainiennes, qui viennent de façon plus ou moins légale s'occuper des personnes âgées. Beaucoup de métiers difficiles sont aussi occupés par des personnes plus ou moins exploitées. Il n'y a pas non plus de salaire minimum. Donc cette bonne santé économique de l'Autriche, je la contrebalancerai avec cette situation-là. Et concernant les aspects politiques, c'est vrai que la Kronen Zeitung joue un rôle très important. Je suis tout à fait d'accord avec Dany Leder, que c'est aussi un journal qui n'hésite pas quand il y a des vols ou s'il y a des faits divers à dire voilà encore les étrangers, enfin des choses qui donnent naissance au racisme si jamais il n'est pas déjà présent dans les têtes. Et sinon sur l'attitude des Autrichiens par rapport au gouvernement, je voudrais juste aborder un petit point précis, c'est qu'en Styrie, donc à une des 9 provinces, des Länder comme on dit, de l'Autriche, le gouvernement a mis en place de très nombreuses réformes, notamment certaines communes qui ont été regroupées dans une espèce d'idée d'avoir un peu une gestion plus rationnelle. Et le résultat a été que pour la première fois dans l'histoire du pays, la Styrie a eu comme premier parti le FPE, donc le principal parti d'extrême droite. Donc je pense que les gens sont à la fois contents de la situation parce que pour les Autrichiens ça va plutôt bien, même si c'est au prix de quelques exploitations. Et ensuite, le peu d'engouement que les Autrichiens ont par rapport au gouvernement actuel explique aussi la montée de l'extrême droite, en tous les cas du principal parti d'extrême droite, celui de Strache.
Dany Leder, d'un mot, parce que je voudrais faire rebondir Christian Philippe.
Oui, je voulais juste compléter ce que Jérôme Segal vient de dire est absolument exact. Bon, en Styrie, on a effectivement eu un appel des maires concernés. Comme je le disais tout à l'heure, la réforme administrative pour faire des économies dans le cadre de l'État fédéral, bon, provoque immédiatement le rejet des partis classiques. Donc, on a maintenant le parti de la droite radicale à peu près 24%.
7%, c'est en termes relatifs qu'il est le principal parti, mais il faut mettre ça en regard aussi en même temps avec la région d'à côté, la Carinthie, qui était le bastion de la droite radicale autrichienne, qu'ils ont gouverné pendant, je crois, une dizaine d'années, et où se sont pris une grosse claque. Et ils ont perdu leur position dominante qui a été reprise par les sociodémocrates à la suite de leurs innombrables affaires de corruption et de détournement d'argent. Donc, ils ont peut-être avancé en Styrie, mais ils ont subi une défaite importante dans leur bastion historique.
Alors, Christian Wilitz, est-ce qu'on peut dire que, entre les partis, je veux dire classiques, hein, le parti social-démocrate, le parti conservateur, le parti néolibéral et les Verts, on va dire les partis classiques et les partis populistes, les trois autres qu'on a déjà cités, est-ce que la ligne de fracture, c'est l'Europe ?
Le problème de l'Europe, et ça c'est très important, l'Europe était absolument absente dans tous les débats pendant toute la campagne électorale. Et le deuxième point, c'est que, comme dans beaucoup de pays, dès qu'il y a des politiques qui dérangent, etc., on les envoie en Europe, c'est-à-dire on les envoie à Strasbourg et à Bruxelles.
Et pourtant, Dany Lieder nous expliquait que l'Autriche a énormément profité de l'Europe, de l'élargissement de l'Europe, ne serait-ce que parce que c'est un pays au carrefour de l'Europe et très proche de l'Europe centrale et orientale.
Absolument, mais ce qui est de paradoxal, c'est que cela n'est pas expliqué aux gens. Apparemment, soit les politiques, soit nous, les journalistes, ne faisons pas notre travail. Ce n'est pas du tout compris par les gens. C'est-à-dire des gens comme Strache peuvent affirmer vertement, voilà, on paye tant à Bruxelles et donc il faut couper les crédits vers Bruxelles. Et tous les autres oublient de répondre pour dire que l'Autriche profite, et surtout certaines régions pauvres, relativement pauvres, comme le Burgenland qui est au sud de l'Autriche, limitrophe de la Hongrie, et qui est très, une région très agricole, eh bien, profite très largement de l'argent de Bruxelles. Donc, ce que l'Autriche paye, eh bien, cet argent revient très largement et cela n'est pas expliqué aux gens.
Non, mais il y a aussi une chose, il ne faut pas prendre les gens plus bêtes qu'ils sont, c'est-à-dire, il y a une certaine hypocrisie, y compris chez les électeurs, disons, anti-européens. Ils sont absolument conscients de ce problème, mais simplement, ils veulent l'argent et le beurre de l'argent. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que, quand on regarde les sondages par rapport à l'Europe, on voit que donc il y a une certaine méfiance, donc il faudrait pas donner de l'argent à la Grèce, mais en même temps, quand on leur pose la question, vous voulez sortir de l'euro, il y a 17%, et il y a une majorité d'ailleurs qui regrimpe pour dire que c'était une bonne chose d'adhérer, et surtout que c'est une bonne chose pour l'économie. Donc, ce que souhaitent les Autrichiens, c'est qu'il n'y ait pas de solidarité sociale, économique, pour les faibles, ou les pays à la traîne en Europe, mais qu'on continue à en profiter. Et c'est d'ailleurs un point très important, qui permet aussi de pointer une faiblesse de la droite radicale, que ça soit en Autriche ou en France, c'est que si on va au bout de leur raisonnement et on leur demande est-ce que vous voulez effectivement démanteler l'Union européenne, ils commencent à avoir du mal, tout en se servant de cet aspect-là pour se plaindre d'une sorte d'injustice qu'ils subiraient.
Christian Philippe, ce que vient de nous dire Christian Lieder, c'est qu'au pays de Freud, il faudrait envisager une psychothérapie de groupe et allonger tous les Autrichiens sur un divan.
Oui, je crois qu'on aurait beaucoup de boulot dans ce contexte, parce que la question qui revient sans arrêt dans les commentaires, que ce soit de la presse autrichienne ou dans la presse internationale, c'est comment expliquer qu'un pays qui fonctionne bien, malgré évidemment un certain nombre de choses qui vont mal ou qui vont moins bien, eh bien, malgré un bilan globalement positif, les gens votent pour des formations qui n'ont rien à proposer, sinon des slogans de protestation. Et le seul élément positif, on va dire, constructif plutôt, c'est l'apparition d'un nouveau parti, l'ENEOS, qui en un an, et sans, sauf dans les dernières semaines de la campagne électorale, de personnalités flamboyantes, connues, a réussi à entrer du premier coup dans le Parlement avec près de 5%, donc la barre était de 4%. Et là, ce qu'on voit aussi dans les analyses, c'est que les deux grands partis de la coalition, qui ne sont plus si grands que ça, ce sont surtout des électeurs d'un certain âge. Et par exemple, l'ENEOS, ce sont en grande partie des jeunes du parti conservateur qui sont mécontents de leur parti parce que justement ils n'arrivent pas à réaliser les réformes nécessaires et qui veulent un renouveau.
Même chose pour les sociodémocrates avec des électeurs qui ont peut-être voté cette fois-ci pour les Verts. Les Verts ont eu un grand succès aussi au cours de ces élections, ou un bon succès.
Pas du tout. Et alors ça, c'est,
erreur,
ça,
de
c'est
ma part.
Une autre énigme, parce que les Verts et ont, tous les sondages, on les attendait autour de 15%, et finalement, ils ont gagné un petit point, c'est-à-dire ils sont à 11% maintenant, donc ils étaient décevants, ils ont déçu, mais c'est vrai que leur seul point de vrai, véritable de la campagne, c'était le seul thème, c'était la corruption, et eux, eh bien, c'est le seul parti qui n'est pas corrompu, et c'est pas grand-chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas assez. Et le SPE a aussi perdu des voix. Alors c'est étonnant, vers Stronach aussi par exemple.
Mais ce qu'il faut par exemple souligner pour aussi redorer le blason et pas perdre espoir, c'est que les Verts ont peut-être pas réussi à atteindre les 15% qu'ils pouvaient espérer, mais c'est le premier parti à Innsbruck, la capitale du Tyrol, qui est quand même une région assez conservatrice. C'est le premier parti dans la deuxième ville du pays, à Graz, en termes relatifs, hein, je dis. Bien. Et puis bon, si on additionne les Verts qui ont un grand potentiel, ou majoritairement parmi les jeunes électeurs, avec les sociaux-démocrates, on voit bien qu'il y a eu une évolution importante culturelle en Autriche. Une coalition de forces éclairées, je dirais, qu'il faudrait souligner aussi, et parce qu'ils font contrepoids à ce que représente la droite radicale.
On voit bien qu'il faut jeter un regard nuancé sur l'Autriche. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Romain Ferré. Plein de choses vous attendent sur la page de l'émission via RFI.fr. Vous pouvez l'atteindre, bien sûr, en tapant Carrefour de l'Europe RFI sur votre moteur de recherche préféré, sans oublier les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Vienne, à Paris, ailleurs en Europe, en Afrique ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.